Une suya de Gonaran, je vous rappelle que suya, ça veut dire une étude sur un sujet précis, rattaché à l'étude juridique générale, qui est l'objet du chapitre. Je ne sais pas s'il y a des linguistes parmi vous. Je ne me souviens plus comment on dit suya en français. Suya. Bon, on va le dire en araméen, une suya. Et cette étude va avoir deux objets. Vous rappelez qu'au premier cours, c'était donc le mardi matin, lorsque nous avons étudié le texte de Rashi sur la définition de l'importance des récits historiques des Toladot, des engendrements de l'identité d'Israël. Alors, nous avons eu une parenthèse sur la définition du Chidouche, c'est-à-dire du renouvellement de sens qui apparaît le long de telle ou telle étude. Et puis nous sommes arrivés sur le point que, par rapport au problème de la controverse dans l'étude talmudique, je vous avais indiqué en passant que c'est une erreur de penser que les sages du Talmud sont en controverse sur le sens du verset qu'ils étudient. Ils possèdent le même sens direct, pshat, comme on dit en hébreu, obvi, en langage barbare. Obvi, ça veut dire quoi en français simple? Disons le sens direct, okay. Pardon, évident, okay. Mais ils sont en controverse sur l'implication qu'il faut mettre en évidence par rapport à telle ou telle situation historique donnée. Est-ce que c'est bien clair? Je dirais à la limite que les controverses sont beaucoup plus d'ordre politique que d'ordre théorique, que d'ordre cognitif, enfin de l'ordre de la connaissance. Bien sûr, ce que je vous dis là sera critiqué, repoussé par énormément de tendances intellectualistes, surtout de type universitaire d'ailleurs. Mais c'est un tout autre problème, je ne voudrais pas prendre trop de temps pour en débattre. Il y a des postulats de ce problème qui sont en question. Je le dirais de façon très schématique. Le postulat de la tradition de connaissance talmudique, midrashique, kabbaliste de la Bible, le postulat c'est que la Bible est une sagesse révélée. Par quelle médiation, par quel biais, cette sagesse révélée s'incarne, synchronologise, entrée dans le temps, suivant un terme, un néologisme de missionnaire, mais qui n'a pas réussi à passer dans la langue des exégètes, synchronise, je crois qu'il disait, c'est encore un autre sujet, alors que le postulat de l'exégèse universitaire, c'est que, bien évidemment, la Bible n'est pas une sagesse révélée, que c'est le produit historique de la capacité de sagesse du peuple juif. Tout un débat. Ceux qui ont assisté à la conférence d'hier soir pourraient recoder. Je pense que nous consacrerons peut-être une fois une étude à ce sujet. Et peut-être en controverse, d'ailleurs. Et m'est venu à l'esprit, quand je vous parlais de cela, l'exemple de cette page de Gemara que nous avons étudiée, et qui porte sur un exemple concernant le sujet du séminaire, c'est-à-dire le rapport entre Israël et l'universel humain. Alors je vous donne d'abord la référence du verset, et je veux dire où nous allons commencer l'étude. Voilà, si vous arrivez à trouver cette ligne, « Amar lahen Rabban Yochanan ben Zakkai », je vais vous dire, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 lignes plus haut que la bifurcation là, hein? À la fin de la 9e ligne, Amar lahen Rabban Yochanan ben Zakkai le Talmidav. Vous y êtes? Alors, ça va porter sur le verset 34 du chapitre 14 des Proverbes. Voilà, vous avez trouvé la ligne? Alors, Rabban Yochanan ben Zakkai, Amar Lahen, a dit à eux, leur a dit, à qui, les Talmidav, à ses disciples. Donc, nous sommes dans le Beit HaMidrash de Rabban Yochanan ben Zakkai, qui pose à ses disciples, les Talmidav, à ses élèves, la question suivante. Banaï, mes fils, Mahou She'amar Akatou. Qu'est-ce cela qu'a dit le verset? Et voici donc le verset 34 du chapitre 14 des Proverbes. Tzedaka teromem goy vechesed leumim chazat. Je vais d'abord traduire dans la traduction la plus courante, Pour cela, je vais appuyer sur la traduction de la Bible du rabbinat, que je la cherche une minute. Vous allez noter la traduction française habituelle. D'ailleurs, vous vérifierez dans les autres Bibles traduites, que ce soit des Bibles protestantes, catholiques, orthodoxes, en anglais, en français. Si je me souviens bien, lorsque j'ai étudié ce problème, il ne me semble pas qu'il y ait d'exception. Grosso modo, toutes les Bibles traduites traduisent à peu près comme la Bible du rabbinat va traduire. La justice grandit une nation. Vous voyez, ça traduit Tzedaka Teromem Goy. La justice, Tzedaka Teromem, c'est un futur, mais qu'on peut lire au présent. Teromem élève, Léa, c'est clair, grandit, élève, Goy, une nation. Vechesed Leumim Chatat. Et le crime est l'opprobre des peuples. Chesed. C'est donc que l'on lit ainsi l'hébreu, Chesed, c'est Hatat Leumim. Hatat, ici, signifiant la notion de opprobre, en français, opprobre. Okay? En français un peu littéraire, ça veut dire une mauvaise action. Okay? La honte qui s'attache à une mauvaise action. Alors je mets tout de suite en évidence que, ainsi traduit, malgré tout, le verset semble un peu plat. Il semble. Exprimer une évidence de type, une lapalissade. Hein? La justice grandit une nation, le crime est l'opprobre et l'opprobre des peuples. Bon, retenez la traduction classique. Alors, devant un verset, oui, vous voulez la lire?
Pas le crime, mais le péché.
Le péché, oui. Mais c'est la même césure. Hein? Oui. Théologiquement, c'est différent, mais c'est finalement la même. Manière de lire le verset en hébreu, que je reprends en hébreu, Tzedaka Teromem Goy, Vechesed Leumim Chatat. Je suppose que le traducteur a voulu traduire comme ça, Vechesed Leumim Chatat, Chatat étant le crime, Chatat, le péché, le crime, Vechesed Leumim est la honte des peuples, quelque chose de ce genre. Bon. Alors nous allons voir ce qui va se développer de cette étude. Rabbi Eliezer, le premier des élèves de Rabban Yochanan, Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer a répondu, a dit, Tzedaka Teromem Goy, la justice élève une nation, élu Israël, il s'agit d'Israël, la nation. Dirti, puisqu'il est écrit, Umi ke amecha Israël, Goy echad baaretz. Qui est, comme ton peuple Israël, nation unique sur terre. Tout cela demande à être expliqué. Okay? Mais vous percevez l'humour. Premièrement, Rabbi Eliezer dit, il n'y a de Goy qu'Israël. Okay? Il n'y en a pas d'autre. Et effectivement, il a un verset pour cela. Et qui est, comme ton peuple Israël, Goy unique sur la terre. Alors, c'est la première thèse. Je finis la lecture, merci beaucoup, du verset complètement. Et nous réfléchirons à propos de cette première thèse sur la manière dont Rabbi Eliezer lit le verset qu'a proposé à l'étude le maître Rabban Yochanan ben Zakkai. C'est clair? Alors admettons qu'on ne connaît pas le sens du verset, on va essayer de découvrir comment Rabbi Eliezer comprend le verset des Proverbes. Alors première partie, Tzedaka Teromem Goy. Affirmation abrupte, préremptoire, comme on dit, péremptoire, je ne sais plus, il n'y a de Goy vraiment qu'Israël, et donc la première partie du verset concerne Israël, la justice élève la nation qui est Israël. Vechesed Leumim Chatat, et la charité chez les peuples, Chesed ça veut dire la charité, vous voyez qu'on est loin de la traduction, on va se demander pourquoi, okay? Et Vechesed Leumim Chatat, ça veut dire que et la charité des peuples, c'est une faute. Kol tzedaka v'chesed, toute charité sous forme de justice. La tzedaka, c'est la charité que ce n'est que justice de la faire. Le devoir de charité. Et chesed, c'est la charité vraiment. Sheumot obde kochavim osin, que les peuples idolâtres pratiquent, chet ou la haine, c'est une faute pour eux. Shenan Osin et là les Gadelbo, parce qu'ils ne le font que pour s'en, disons, c'est pas sans enorgueillir, mais ils ne le font que pour leur bien, les Gadelbo, pour s'en agrandir. Ça veut dire que Il n'y a pas de tzedaka et de chesed chez les peuples désintéressés. Il y a toujours un intérêt. Et quel est cet intérêt sans agrandir. Imaginons, on va étudier tout cela, mais pour le moment je traduis. Imaginons quelqu'un qui s'occupe d'œuvres de charité, mais pour l'honneur que cela donne. Quelqu'un qui s'occupe d'un comité de bienfaisance pour en fin de compte recevoir la Légion d'honneur. Mais voilà à peu près la thèse. L'altruisme n'est qu'un égoïsme déguisé, et on entendrait la Rochefoucauld à la limite, mais Rabbi Eliezer dit ça, ça vaut pour l'égoïme. Pour Israël, la justice élève la nation, ça, ça concerne Israël, et c'est ce que dit la Bible, que Israël est la seule nation. Et vous voyez toutes les questions qui se posent dès qu'on commence à traduire. Alors en tout cas, avant d'arriver à l'analyse du contenu de l'enseignement de Rabbi Eliezer, comment Rabbi Eliezer a lu le verset, notez mot par mot. Tzedaka, c'est la conduite de charité selon la loi. J'explique. Lorsqu'on dit donner la charité, on dit faire une tzedaka. Okay. Mais c'est la loi qui prévoit que cette charité doit être donnée comme obligation. Tzedaka. Chesed, c'est la charité gratuite. C'est pas parce que j'ai à m'acquitter de l'obligation du devoir de charité. Chesed, c'est la conduite charitable. Par exemple, le Talmud, dans un autre endroit, dira Tzedaka, on ne peut faire qu'à un pauvre. Tandis que Chesed, on peut faire et aux pauvres et aux riches. Il y a des situations où le riche a besoin d'une relation charitable. On peut faire la charité avec un regard, avec une parole, avec une attitude. Tandis que la Tzedaka, c'est le hani, celui à qui il manque le minimum vital, pour dire cela comme ça, nous avons un devoir de lui donner la tzedaka. Je ne sais pas s'il le mérite, mais le seul fait que ça lui manque, c'est un devoir pour moi d'en tenir compte. Ça, c'est tzedaka. Est-ce que c'est bien clair? Alors, tout se passe comme si Rabbi Eliezer veut nous dire, il n'y a de charité désintéressée que là où il y a déjà la justice. Et par conséquent, on appellera une nation authentique, d'après cette étude, que la nation qui a pris la moralité comme constitution. Alors, on comprend pourquoi Rabbi Eliezer dit il n'y a de nation sur terre qu'Israël. C'est un point important de l'analyse, je vais y revenir. D'après le verset qui dit « Umi ke amecha ke Israël goy echad baret » C'est le verset qui dit, en s'adressant à Dieu, et qui est comme ton peuple Israël, la seule nation qui mérite le nom de nation. Alors je reprends un peu l'analyse. C'est bien clair? Après nous verrons d'autres harmoniques de sens de ce verset. Ça veut dire ceci. Prenons au niveau du vocabulaire élémentaire la différence entre Am et Goy. D'abord, puisque j'emploie ce terme de Goy, je rappelle que Goy en hébreu n'a pas de sens péjoratif, le sens péjoratif qu'il a pris dans les langues juives. Dans les langues juives, lorsqu'on parle des nations ou des hommes des nations, et qu'on emploie ce terme, les goïms, le goï, ça finit par prendre quelque chose de négatif à cause du sort que les juifs, pendant tout le temps de la dispersion, ont eu chez les nations. Mais ça n'a pas du tout de sens péjoratif dans le vocabulaire biblique. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? C'est très précisément, je le répète souvent, il me semble, le mot latin de gentillesse, les nations, les gens en français. Bon, là, ça nous permet de faire un jeu de mots. Les goïms n'ont pas toujours été gentils pour nous, mais on les appelle les gentils. C'est l'humour de l'histoire. Et alors, quelle est l'origine des nations? Ben, rappelez-vous les premiers cours du séminaire, de ce séminaire. L'unité humaine éclatée à Babel, le résultat, c'est les nations. Les nations, c'est la première effectuation de la diaspora humaine. Vous vous rappelez de cette analyse, okay? Il y avait universel humain réel, unité de l'humanité. Cette unité a éclaté, le résultat, c'est les nations. C'est bien clair? Alors, quelle est la différence de sens en hébreu entre le Ham, le peuple, et le Goy, la nation? Même lorsqu'on parle d'une même réalité sociologique, le peuple français et la nation française. Quelle est la différence en hébreu? Eh bien, on va faire de l'étymologie tout simplement. Le mot de Ham se rattache à la racine Aim, qui signifie avec, Tous ceux qui vivent avec, c'est un peuple. Il y a une autre catégorie en hébreu, la Ouma. Ce n'est pas nécessaire que je mette au tableau. Aleph, Vav, Mem, He, Ouma. Ou le Léum, Lamed, Mem, Vav, Mem. Qui veut dire aussi peuple, mais dans le sens de l'ethnie. Elle se rattache à la racine M, qui signifie la mer. Ceux qui descendent de la même mer. C'est une Ouma, un Léum. Le Ham, c'est le fait d'être ensemble. Peuple en tant que rassemblement de ensemble. Alors que Goy, ça veut dire le peuple organisé avec ses institutions. Et ça, on dit en français une nation. Est-ce que c'est clair? Bon. Il y a donc le Ham Israël, et le Ham Israël existe en tant que Ham, même s'il est dispersé. Mais il n'est plus un Goy. Et il faut qu'il se reconstitue avec ses institutions pour être une nation. D'une certaine manière, par rapport à ce vocabulaire strict, pendant tout le temps de la diaspora, le peuple juif a continué en tant que dispersé à être un peuple, mais il n'était plus une nation. On pouvait parler au niveau littéraire de la nation juive, mais c'était une façon de parler. La nation juive n'a jamais disparu, mais dans notre mémoire, dans notre conscience, en tant que fait de conscience, mais en tant que fait de réalité, il n'y avait plus de fait national juif, il y avait le fait d'un peuple juif. Est-ce que c'est clair? D'ailleurs, cette indication nous est donnée par un verset du livre d'Esther, lorsque Aman veut dénoncer le cosmopolitisme juif à Assuérus, et il dit « Am mefuzar umforad bagoim ». Il y a un peuple mefuzar, dispersé, umforad et divisé, bagoim chez les nations. Et alors, il y a un enseignement du Midrash qui est très important. Je reprends l'expression du verset pour lui-même. Il est divisé parce qu'il est dispersé. Am, meforad, sicha, mefuzar, dispersé, umforad. Vous voyez l'ordre. C'est parce qu'il est mefuzar qu'il est meforad. C'est-à-dire, nos divisions viennent de notre dispersion. En fait, c'est un thème important. Nos divisions reflètent les divisions de l'humanité que nous recevons dans notre dispersion. Bien, je referme la parenthèse. Alors, Rabbi Eliezer semble indiquer ceci. Il y a un seul peuple qui mérite le terme de nation, c'est le peuple qui admet comme institution la justice. Alors, on revient, c'est clair? On revient donc à la première partie du verset des Proverbes. Tzedaka teromem goy. La tzedaka, la justice, élève là une nation. Et qu'est-ce que c'est qu'une nation? C'est un peuple avec ses institutions, mais une nation qui a accepté la justice comme l'égalité, c'est le cas exceptionnel d'Israël. Alors là, c'est le fond du problème. Du point de vue de cette question, qu'est-ce qui différencie Israël de l'universel humain? C'est qu'il n'y a que en Israël, que dans le principe, le peuple, la nation, accepte comme constitution réelle non pas telle ou telle légalité, se référant dans tel ou tel principe idéal à la moralité, mais la moralité elle-même. C'est-à-dire cette distinction entre légalité et moralité, c'est elle qui sépare Israël des nations. Dans toutes les nations, à l'échelle individuelle, il y a l'exigence de la moralité, mais la nation comme telle n'a que l'exigence de la légalité. Et c'est installé par Rome. Okay? La légalité prime la moralité dans la notion du droit romain. Et d'ailleurs, c'est une tendance humaine qui envahit aussi la mentalité de la société juive. En particulier en Israël, il y a les légalistes, je parle de la loi civile, okay, qui sont absolument dans cette équation de problématique d'identité romaine, qui parle de la légalité comme si elle était la moralité. Ça mène, à mon sens, tout droit à une mentalité de type totalitariste. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est apparemment au nom de l'humanisme qu'on brandit l'absolu de la légalité comme étant la moralité elle-même, mais l'histoire des sociétés européennes nous montre que ça mène tout droit à une société totalitaire. C'est paradoxal ce que je dis là, parce qu'en général, c'est à gauche Dans l'échiquier politique, on se réclame de l'humanitarisme. Mais c'est toujours à gauche qu'on prépare une société totalitaire. Dans ce sens, il n'y a qu'à voir l'histoire de l'Allemagne. Est-ce que c'est clair? Une minute, je vais affiner cette distinction. Le problème commence avec notre controverse avec Rome. C'est-à-dire, à partir du moment où Rome installe comme doctrine de la Constitution la légalité à la place de la moralité, il y a un schisme irréductible entre Jérusalem et Rome. Est-ce que c'est bien clair? D'où l'ambiguïté de l'identité chrétienne qui prétend trouver Jérusalem dans Rome, si j'ose dire. Mais c'est Rome qui est dans Rome. Et la formule étant, rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu, rendez à César ce qui appartient à César, quelles que soient les discussions fines qu'il faut affiner sur l'intention du verset des évangiles en ce cas, eh bien, ça indique clairement ce dualisme. Rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu, la moralité, et rendez à César ce qui appartient à César, la légalité. Or, nous avons dans l'enseignement de Rabbi Eliezer cette vision, que vont reprendre d'ailleurs les autres enseignants, pour la première partie du verset. On ne peut parler de nation véritable qu'une nation qui a admis comme principe de sa constitution la moralité elle-même. C'est la moralité qui est la légalité. La légalité peut être morale si elle est compatible à la moralité. Vous devinez le monde de problèmes qu'il y a là. Le sentiment de l'hébreu de la Bible, et c'est en cela qu'il a constitué une nation qui accepte la Torah comme constitution, c'est qu'il n'y a de légalité légitime que la moralité elle-même. Alors, nous avons d'autres enseignements dans le Talmud qui nous montrent que ce n'est pas que le cas d'Israël. Il y a chez les goïms, à l'échelle individuelle, les justes des nations qui sont dans le même sens. Et on les appelle les justes des nations. Mais c'est à l'échelle individuelle. Le cas particulier d'une société qui, comme société, a fait cette option d'être une nation ne concevant sa constitution que dans la moralité elle-même, c'est Israël. Je pense que ça éclaire suffisamment l'enseignement de Rabbi Eliezer. Alors que, j'ai pas fini, vous voyez, dans la deuxième partie du verset, on ne parle plus de Goy, de nation. Retenez l'humour paradoxal du fait qu'à partir de maintenant, Goy, ce n'est qu'Israël. Okay? Après, je vous raconte une anecdote chez les Turcs. Et la deuxième partie du verset parle des peuples, les homim. Ça veut dire, par rapport à ce verset, dans l'enseignement de Rabbi Eliezer, et on verra comment c'est nuancé dans l'enseignement de ses collègues, eh bien, il n'y a qu'une nation qui mérite le nom biblique de nation goy, c'est Israël. Et alors, on peut dire que la tzedaka élève la nation comme nation, parce qu'elle a opté pour la tzedaka comme constitution, en sens là qu'elle est une nation. Les autres, c'est les peuplades, les umim, ken, vechesed les umim chatat. Il faut traduire strict, d'après l'expression de Rabbi Eliezer, première traduction littérale, vechesed et la charité, les umim chez les peuples, chatat, c'est une faute. J'explique d'abord. Ils disent que c'est de la charité, mais en réalité, c'est une faute. Parce que si dans la société, il n'y a pas d'abord la justice, la charité n'est pas charité. Ça veut dire, il n'y a vraiment de conduite de charité que si elle est au-delà de la justice. Mais s'il n'y a pas d'abord la justice garantie, la charité n'est pas charité, elle est une faute. Et chacun va dire en quoi le premier enseignement de Rabbi Eliezer, c'est une stratégie d'orgueil menant... Non, l'orgueil, ça va être dit après, c'est pas l'orgueil. L'Edgar Delbo, c'est une stratégie de l'intérêt de la société qui se fait passer pour de la charité. Dans une société où la justice est la constitution, la charité est charité. Mais dans une société où la justice n'est pas la constitution, la charité c'est quoi? C'est une compensation à quoi? C'est un travestissement de quoi? Première réponse, de l'intérêt social. Vous trouverez donc chez les moralistes et chez les sociologues cette thèse que la véritable nature de la tendance à la charité, c'est que l'on cherche l'intérêt de la société. Il faut des comités de bienfaisance, sinon il y a des émeutes chez les pauvres. Alors on aura des comités de bienfaisance pour le bien de la société. Je pose ces choses à la limite, mais vous comprenez un peu le raisonnement. Qu'est-ce qu'on a appris essentiellement, puisque nous avons objet, c'est en objet de l'étude, le sens du verset à l'origine. Ken. Alors je reprends la traduction littérale qui se restitue ainsi. Tzedaka teromem goy, la justice élève une nation, vechesed leumim, et la charité chez les peuples qui n'arrivent pas à être une nation, qui n'ont pas de tzedaka, c'est khatat, c'est un crime. Ken. Alors il y a là quelque chose qui est assez parallèle à l'analyse socialiste de la critique de la charité chrétienne, Ken. C'est que c'est la Libye de tous les crimes. Qui sont, comment dire, sous l'abri de la soupape de la charité. La révolte prolétarienne, disons, c'est de réclamer la tzedaka, pas le chesed. Est-ce que c'est clair ce que je dis, Tom? Par exemple, dans mes études de sociologie, j'avais remarqué cela, c'est que des chefs d'entreprise intelligents attendent qu'il y ait une grève pour donner une augmentation aux ouvriers, alors qu'ils étaient déjà prêts à la donner. S'ils la donnent avant qu'il y ait une révolte, c'est une conduite paternaliste qui est mal intégrée par les ouvriers. Lorsque les ouvriers ont le sentiment d'avoir obtenu leurs droits, alors c'est en ordre. Est-ce que c'est clair ceci-là? Bon. Et je crois que le gouvernement israélien, enfin le ministre des Finances, a compris la leçon. Et c'est pourquoi les médecins sont en grève depuis déjà le déluge. Et bien, est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Tzedaka, teromem, goy, ve'en goy, ela Israël, dirtiv, umike amecha, ke Israël, goy, echad, baret, il n'y en a pas d'autre. Donc, chaque fois qu'on parle d'un goy dans ce type de verset, dit Rabbi Eliezer, ça ne peut être qu'Israël, d'après le verset de Mika amecha, ke Israël, goy, echad, baret. Vechesed lomim chatat, chatat ça veut dire faute, faute de quoi? Faute de l'intérêt de la société se faisant prendre pour. Bien, voilà la première lecture.
Comment c'est l'État lui-même qui fait de cette justice sociale un argument électoral?
Pardon?
Quand c'est l'État lui-même qui fait de la justice sociale un argument électoral.
Alors là il y a. Oui, là il y a place pour une analyse encore plus fine. C'est que énormément de législations qui sont de l'ordre de la charité, on les présente comme si c'était de la justice sociale. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Et ce point de l'analyse, on le reprendra peut-être plus tard. Lorsqu'on étudie des lois dans la Torah, que beaucoup de commentateurs modernes, disons, ou interprétateurs, je ne sais pas comment dire, présentent, je crois, à tort comme des lois de justice sociale, ce sont des lois qui vont à l'encontre de l'intérêt de la société. À la limite, je dirais, de l'injustice, entre guillemets, sociale. Vous comprenez, par exemple, la loi de la Shemitah, etc. Le moratoire des dettes tous les 7 ans. La Torah impose une loi qui est anti-société. Je dis pas sociale à cause de la connotation justice sociale. Et dès qu'une société fonctionne, il y a des forts et des faibles. Et c'est la loi de la société. Alors la Torah intervient. La société va fonctionner. Il y aura des forts et des faibles. En langage biblique, ça s'appelle les maîtres et les esclaves. Et alors, les maîtres acquériront des esclaves. Eh bien, la Torah intervient. Tous les 7 ans, tu libères les esclaves. On appelle ça une loi de justice sociale, c'est une loi d'injustice sociale. Ça va contre l'intérêt rationnel de la société. Est-ce que c'est clair? Alors, je crois que ça va un peu dans le sens de votre question. Quel? Pardon? 1, 2, 3, 14. Oui, oui,
à propos de moralité, l'égalité et le sondage de Rome, il y a tout de même, chez les Goïm, à l'époque, une conscience aiguë du scandale que ça représente, parce que le proverbe latin, summum ius summa injuria, rétablit cette conscience au plan de l'individu, de la justice, de la moralité, pas encore au plan de la société, parce que c'est encore trop tôt, mais c'est quand même là.
Je suis d'accord avec vous. Le Talmud a diagnostiqué cela très tôt, en parlant des chassidés ou motarolam. Ça veut dire, dans les sociétés des goïms, suivant cette analyse, il y a des individus qui sont des justes des nations, qui dans leur équation individuelle perçoivent cela, qu'il n'y a de l'égalité légitime que la moralité elle-même, ce que vous désignez, mais les sociétés goï en tant que telles, goï dans le sens du vocabulaire juif, il n'y en a jamais eu aucune dans l'histoire du monde qui a pensé sa légalité comme étant l'exigence de la moralité. Par exemple, lorsqu'on oppose le code de Hammurabi à la loi de Moïse, il y a une escroquerie historico-intellectuelle massive, le code de Hammurabi est un code de légalité, et pas du tout comme la loi de Moïse qui est une loi de moralité. Est-ce que c'est clair ce que je dis là, Ken? De la même manière, vous pouvez trouver des choses analogues dans n'importe quelle société décemment civilisée, à travers les siècles, des règlements municipaux qui peuvent ressembler à des articles du Shulchan Aruch, mais c'est pour le bien de la société, c'est pour que la civilité fonctionne dans le sens étymologique. Ce sont des lois de convivialité, ce sont des lois de Derech Eretz en hébreu, et ça me ramène à une analyse paulinienne qui nous est familière, c'est-à-dire que il faut bien qu'il y ait des lois de fonctionnement de la cité, la polis en grec, d'où le mot de politesse. Il faut bien qu'il y ait des comportements de politesse, mais le salut ne passe pas par la moralité. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Et je crois que ici, c'est une schématisation énorme que je formule. Depuis l'histoire des sociétés humaines, il n'y a eu que la tradition d'Israël qui a présenté ce cas particulier, l'exigence de l'identification entre la moralité et la légalité. Et je crois, j'en profite pour ouvrir ici une parenthèse un peu historique, que nous aurions intérêt à reprendre ce débat de la définition de l'accusation de pharisaïsme contre le talmudisme par les théologiens romains, de l'Église romaine. Parce que ce que le théologien romain met dans son accusation de pharisaïsme, c'est précisément le fait de prendre la légalité à la place de la moralité. Mais c'est ça Rome, précisément. Vous voyez, cette inversion de... Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là, okay. J'avais dit une fois au père Riquet que finalement il y a une providence du langage. On parlait de ce problème il y a très longtemps. Ça, je crois que beaucoup de théologiens chrétiens ont admis que c'est une calomnie, le pharisaïsme. Et j'ai dit, il y a un humour du langage, finalement, si vous cherchez dans le dictionnaire qu'est-ce que ça veut dire jésuite, il y a une espèce d'ambiguïté analogue. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Mais je ne crois pas qu'on peut imputer aux croyants chrétiens les défauts de moralité intellectuelle que la calomnie qu'il y a dans le mot de jésuite implique aux jésuites. Je m'en suis sorti. J'avais lu une fois, mais je ne sais pas. Je ne sais pas qui a dit cela. Qu'un jésuite est capable de mentir même quand il dit la vérité. Mais je ne sais pas qui a dit cela. C'est connu. Je crois pas.
Un jésuite,
probablement. Ou un shintoïste.
Non, mais il y a deux mots en exégèse chrétienne dans le pharisaïsme et le pharisianisme et la doctrine.
Oui, c'est un peu récent. C'est un peu récent. Oui, c'est un peu récent. Malgré tout, le seul fait. Ceci dit, je dois vous dire, pour un peu excuser l'origine de cette calomnie, c'est que je dois être en train de dire du lachon. Le Talmud établit qu'il y a sept sortes de pharisiens. Une catégorie est authentique, les autres sont des hypocrites. C'est-à-dire l'origine de cette calomnie légende attribuée aux juifs pharisiens est dans le talmudique. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Par exemple, j'ai oublié la source en détail, vous avez le pharisien qui a des bosses sur le front. C'est parce que il marche toujours la tête courbée, le front penché sur la terre, je suis humble, et alors il se cogne au mur, et alors il a constamment des... Et puis des tas de définitions comme ça. Et puis il y en a un qui est le pharisien de la Torah. Donc c'est en analyse sociologique fine, on peut trouver ça dans tous les quartiers juifs.
Est-ce que le fait qu'on dise chassidé ou motorolam et non pas tzadiké ou motorolam, est-ce que c'est à mon avis à ce point de la légalité et de la moralité?
Absolument, absolument.
Et une autre question.
Attendez, je voudrais expliquer la question à tout le monde. C'est que le chassid est celui qui est relié à l'exigence de moralité au-delà, en deçà, d'une règle légale quelconque. C'est la ferveur de moralité, le chassid. C'est pourquoi on ne dit pas les tzadikim, parce qu'ils n'ont pas de perception de la loi comme telle. Je veux dire que le commandement de moralité est un commandement d'obligation de loi, Et ce sont des chassidim, mais on ne peut pas les définir comme tzadikim, dans le sens de la relation à une législation. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Cependant, en français, on s'est habitué à traduire chassidim motar olam par les justes des nations. Il faudrait dire les... Mais je ne crois pas qu'il y ait de mot français pour traduire chassid. C'est l'idée de ferveur. Il y a aussi l'idée de piété. Mais chassid, c'est intraduisible. C'est comme le chauffard. C'est une trompette, mais c'est pas une trompette. D'autant plus qu'il y a une espèce de coquetterie littéraire dans la pensée juive contemporaine. Tout le monde se réclame du chassidisme, Buber y compris, mais d'abord, c'est pas du tout évident que le chassidisme de Buber, c'est vraiment du chassidisme. Ça flirte un peu avec l'hindouisme. C'est une autre histoire. C'est un problème très vaste. Il ne reste pas moins que Buber est descendant de chassid. Okay. Mais le chassid juif, le authentique, okay, est très chassid dans ce sens-là. C'est parce que la loi existe qu'on en tient compte. Mais l'essentiel, c'est la chassidoute. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Okay. Si vous avez connu un véritable chassid, quand vous lui parlez du scrupule, de la légalité de la loi, en tant que c'est la loi morale qui est la loi légale, eh bien, il n'en pense pas moins. Okay. Bon, il faut faire ça aussi. Mais l'essentiel, c'est chassidoute. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Okay. J'ai dit une fois, je crois, c'est tellement fou, cette grande querelle entre les mitnagdim et les chassidim, les mitnagdim étant les opposants aux chassidim, c'est une querelle dépassée. Elle a été une guerre héroïque, d'ailleurs, je dois dire, ils se sont massacrés entre eux, je ne sais pas si vous le savez. Et surtout les mitnagdim par rapport aux chassidim, dénoncés aux autorités russes ou polonaises, en fait des choses très, bref, des histoires juives. Et ça continue dans certaines sectes, ça continue en musée, si j'ose dire. Mais aujourd'hui, les descendants de mitnagdim se conduisent en chassidim, ils ne se rendent pas compte. Et les descendants de chassidim étudient comme des mitnagdim, ils ne s'en rendent pas compte. Mais il ne reste pas moins que ça a été une grande querelle et qui éclaire beaucoup de choses dans l'histoire juive. La tendance à la pratique, au naasé plutôt qu'au nishma, elle est très mitnaged. La tendance au nishma plutôt qu'au naasé, elle est très chassid. Mais un juif, c'est naasé et nishma. Et je veux dire ceci, c'est que en donnant un éclairage, une illustration, un mitnaged comprend, autant qu'on peut comprendre, c'est lui évident, la pratique de tous les commandements. Il y en a un qui est difficile, la prière. Seulement, comme c'est écrit qu'il faut prier, il prie. Ça, c'est un mitnaged à la limite, c'est clair. Un chassid comprend un seul commandement, la prière. Les autres, eh bien, c'est écrit qu'il faut les faire, il les fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est vraiment à la limite. Okay. Et alors, en hébreu moderne, on parle, ça doit venir, ça vient de l'hébreu rabbinique, un juif chaud, ça s'appelle Yehudi Ham. Okay. Yehudi Ham. On va dire un bon juif, en hébreu on dit un juif chaud, Ham. Mais Ham, c'est l'être de Hassid et Mitnaget. Les deux à la fois, ça fait un juif. Alors, je reviens au problème, c'était pour votre... Pour votre question, l'attitude du chassid, c'est en deçà et au-delà de la loi. Alors, effectivement, parce que il n'y a pas d'acceptation de la loi en tant que telle chez les Oumot HaOlam, il n'y a pas de législation de la Torah pour les Oumot HaOlam, on verra l'exception des lois de Noir, alors on les appelle chassidim et non pas tzadikim. Mais maintenant, il y a un problème concernant ceux qui pratiquent les lois de Noir. Et ils ne sont considérés comme chassidé au Mouta Olam que s'ils considèrent que les lois de Noir qu'ils pratiquent ont été données à Moïse au Sinaï. La controverse est de savoir comme obligation pour les juifs ou aussi pour les non-juifs, du point de vue de la notion d'obligation. Sinon, dit le Rav Kook en particulier, on les appelle Chachmé au Mouta Olam, les sages des nations. Donc il y a tout un problème. Bien. Alors s'il y a une autre question, oui, et puis on embraye sur la lecture.
J'ai une précision, est-ce qu'il y a dans le monde beaucoup de gens qui suivent les lois de Noah
J'en connais quelques-uns. C'est-à-dire qui au fond, leur option profonde, puisqu'il y a une adresse, Israël existe, la Torah existe, ce serait d'entrer, Tahat Kanfa Shrina, de devenir membre d'Israël. Mais leur identité humaine n'est pas compatible avec l'ensemble des prescriptions de la Torah pour Israël. Et je ne sais pas si je vous ai raconté une fois cette anecdote. Alors ils sont considérés comme ayant Chelek la'olam haba sans qu'ils aient obligation des commandements de la Torah pour Israël. Mais les sept lois de Bnei Noir, une question qui s'est posée lorsque j'étudiais ces questions avec le Rav Kook dans Hilchot Mamrim, c'est est-ce qu'un chrétien qui n'est pas né juif, n'est donc pas soumis à l'obligation de la loi juive, et par conséquent à la limite, n'est pas soumis non plus aux définitions d'une théologie pure d'après la Torah. Donc, quelles que soient ses croyances, est-ce qu'un chrétien, s'il vit d'après les lois de Noir tout en étant chrétien, peut être considéré comme un chassid de Mota Olam? Il y a une question qui reste en suspens, c'est le sang. Je ne sais pas si c'est clair. Une des lois des Mota Olam, c'est de ne pas manger de sang. Or, même un chrétien n'aurait pas à manger kasher, seulement il mange du sang. Alors, là, il y a un problème. Il y a aussi un deuxième problème concernant la nature réelle des évangiles, comme livre révélé ou pas, mais ça, c'est un degré encore un peu plus affiné. Tandis qu'un musulman, tout en étant musulman, s'il pratique les lois de Noir, il n'y a pas de problème, c'est un chassid de Mota Olam. Est-ce que c'est clair? Oui, nous avons là un problème extrêmement passionnant d'ailleurs à définir, mais très difficile à vivre. La relation avec le monde de l'islam d'un côté, le monde de la chrétienté de l'autre. Il y a certains niveaux où il y a compatibilité immédiate entre l'islam et le judaïsme et d'autres, c'est irréductiblement impossible. La chrétienté, ce n'est pas dans les mêmes points. C'est la chose inverse. Certains niveaux où il y a compatibilité et d'autres, c'est irrémédiablement impossible. Bien. Pardon ? Ils ne prennent pas de sang, mais il y a d'autres lois de Noir qu'il faudrait réfléchir à elles.
Tu nous avais parlé d'une anecdote turque ?
Ah oui, c'était à propos du verset. Oumika Amecha Israël Goyechad Baarez. Lorsque les Russes étaient en guerre avec la Turquie, ils avaient obligé les Juifs de Russie à traduire dans tous leurs rituels traduits le mot de Goy par le mot de Turc. Alors il en résultait, et qui est ton peuple Israël, Turc unique sur la terre? C'est authentique. Alors oui, quand vous demandez au café un café turc, on enchaîne. Alors voilà donc le premier enseignement, il n'y a plus de questions là-dessus. Sur quel?
Oui. J'ai cru,
quelque
part, que l'une des étymologies de Goy s'était rattachée à Gia,
un
truc des plus vieux. C'est un cadavre. Non. C'était une allusion au fait que tous les Goyim, c'est-à-dire toutes les nations, tous les peuples étaient mortels, sauf le Goy Kadosh.
C'est un drache au 13e degré. Okay. Je ne sais pas quel est le commentaire que vous citez là, mais je veux dire, la notion de. Qu'il y a dans la racine de Gevia, Goy, c'est Go en araméen, Go, à l'intérieur de Go, de Varimba Go. Okay. Ça veut dire organisation. C'est-à-dire un corps constitué. Comme par exemple dans l'expression française. Le Goy, ça veut dire une organisation. Or, la nation se définit par ses institutions. Gevia, ça veut dire l'organisme. C'est très dérivé que Gevia, ça veut dire la dépouille. C'est que l'organisme est mort. Que Pégar, le cadavre, s'appelle Gevia. Mais lorsqu'il est vivant, on l'appelle aussi Gevia, mais ça n'a pas le sens de dépouille.